le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées.
C'est pas quelque chose d'extérieur à soi.
Le bonheur, pour moi, c'est la liberté.
Pour moi, c'est très simple, en fait, le bonheur. C'est juste être.
Bienvenue sur le podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Je m'appelle Julien Perron. Je suis le réalisateur du film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Gounelle. Passionné par l'être humain depuis sa plus tendre enfance, c'est en 2006, suite à une année émotionnellement chargée, que Laurent prend la plume pour écrire une histoire qui permettrait de partager ses idées sur la vie et la recherche du bonheur. L'homme qui voulait être heureux est publié en 2008 et devient un best-seller mondial, traduit en 25 langues, numéro 1 des ventes en France. Il est aujourd'hui l'auteur de 9 romans, toujours plus impactants les uns que les autres. Aujourd'hui, nous allons parler intuition. Il va nous donner les clés pour avancer avec celle-ci. Je vous souhaite une belle écoute. Belle nouvelle, ça y est, maintenant je peux vous en parler. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines en arrière, je crois, c'était avant que je parte aux Philippines. On était en train de préparer un week-end immersif qui va donc du coup se tenir du 2 au 4 août, je monte l'affiche, du 2 au 4 août au Hameau de l'Étoile. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un lieu qui est magnifique, qui se trouve à 45 minutes de Montpellier. Je vais vous montrer quelques photos. Voilà, ça c'est le Hameau de l'Étoile. Donc nous, on va se retrouver ici pendant 2 jours précisément, parce que c'est un week-end. Avec un groupe de privilégiés de 148 personnes. Là, vous voyez, c'est les salles dans lesquelles on va se retrouver pour ce week-end. C'est vraiment un lieu qui est magnifique. Ils ont une très belle piscine aussi, comme vous pouvez le voir. Et donc, ce week-end fait suite au congrès « C'est quoi le bonheur pour vous ?» dans lequel d'ailleurs Laurent a participé. On va en reparler peut-être rapidement. Le congrès « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui se tenait à Arcachon au mois de novembre. On a vécu vraiment un moment extraordinaire. C'était vraiment génial. Et donc, de ce congrès est née l'idée de faire un week-end immersif avec beaucoup moins de personnes, parce qu'au congrès, on était 600 personnes. Et donc là, le week-end est réservé à 148 personnes précisément pour prolonger cette expérience qu'on a vécue au congrès, qui était extraordinaire, et puis de manière encore plus immersive. Et donc, on sera 3 avec David Tan, Alexandre Antonenko et moi-même pour vous accompagner comme ça pendant 2 jours autour d'un sujet phare, autour de mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et autour de cet adage « Un esprit sain dans un corps sain ». Donc, ça va être vraiment un moment extraordinaire et on vient tout juste de finir ce qu'on appelle la page d'inscription où vous pouvez vous inscrire. Donc, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site c'estquoilebonheur.fr. Je vais vous le mettre après dans les commentaires. Et vous allez voir, il y a un onglet événements et dans cet onglet, il y a le week-end immersif. Et donc, les inscriptions sont ouvertes et vous avez encore quelques mois, hein, maintenant 5 mois précisément pour vous inscrire. 148 personnes, c'est pas beaucoup. Donc, si tout ça vous intéresse, allez sur le site, c'est quoi le bonheur? Je vais faire apparaître immédiatement Laurent pour qu'on commence notre échange passionnant. Bonjour Laurent.
Bonjour Julien. Bonjour à tous.
Alors, petite question pour ceux qui vont nous écouter. Est-ce que le son est bon de votre côté? N'hésitez pas à nous laisser des commentaires hein, sur le côté que je puisse regarder. Laurent, écoute, j'ai envie de te dire, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que j'imagine quand même qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, même si ça fait 18 ans, comme tu me disais, que tu étais auteur et que tu en étais à ton 10e livre, je vais te laisser te présenter pour qu'on comprenne qui tu es. Donc, à toi la parole.
Alors ça, ça peut sembler bizarre, hein. c'est presque la question piège. En fait, aussi loin que remonte ma mémoire, j'ai toujours détesté me présenter. Okay. À l'époque, je ne sais, quand je dis à l'époque, c'est il y a 20 ou 30 ans, enfin quand je suis rentré dans la vie active, il y a 35 ans plutôt, eh bien j'en ignorais la raison. Je me disais pourquoi, c'est pas compliqué de se présenter, de dire quelques mots sur soi. Et en fait, aujourd'hui, je pense en savoir un petit peu plus sur les raisons qui m'ont toujours mis mal à l'aise. Et en fait, c'est parce que tout simplement, c'est difficile de se définir. Parce que c'est facile de dire ce qu'on fait. Voilà, moi, je peux me présenter en disant je suis écrivain, donc j'écris des livres, j'écris des romans initiatiques qui font réfléchir sur soi, sur le monde, sur le sens de la vie, peut-être, des choses comme ça. Mais ça ne dit pas tellement qui je suis, en fait.
Oui.
Et c'est dur de se définir. J'avais même fait une conférence TEDx sur ce thème. Quoi. C'est dur de se définir. Quand on cherche à se définir, on cherche souvent à s'identifier à un certain nombre de choses qui nous représentent, mais qui ne sont justement que des représentations, voire des fausses représentations de nous-mêmes. C'est-à-dire, on peut se définir par ses qualités. Hein. Je peux vous mettre en avant certaines de mes qualités. Je vais choisir, bien sûr, les plus valorisantes d'entre elles. Puis, en même temps, peut-être que toi, Julien, tu as les mêmes ou quelqu'un d'autre. Et pourtant, nous ne sommes pas les mêmes personnes. Donc, je ne peux pas me définir par mes qualités. Et finalement, c'est assez difficile de se définir, de se présenter. Et il y a d'ailleurs un lien avec le sujet d'aujourd'hui, puisqu'on va parler d'intuition. Et l'intuition, je peux d'entrée de jeu, j'anticipe peut-être une de tes questions, Julien, on peut d'entrée de jeu définir l'intuition. L'intuition, c'est, si vous ouvrez n'importe quel dictionnaire, Larousse, le Robert, ce que vous voulez, vous trouverez plus ou moins que l'intuition, c'est un accès direct et immédiat à la réalité, à la vérité. Et donc, la question, à ce moment-là, c'est qu'est-ce que c'est que la réalité ? Et ça renvoie aussi à qui sommes-nous, parce que la réalité, ça commence par soi, et on peut se demander en effet qui nous sommes. Et c'est vrai qu'on a tendance à s'accrocher à un certain nombre de choses qui nous définissent, qui peuvent nous définir aux yeux des autres, comme je l'ai cité, notre métier, nos qualités, mais en fait, c'est difficile. Quand je pose la question dans une salle de conférence, parfois des gens me répondent « je suis mon corps », parce que voilà, on sait que les vrais sosies, ça n'existe pas, il n'y a pas de personne au monde qui a le même corps. Mais en même temps, votre corps, il change tout le temps. Vous voyez, ça fait quoi, une minute que je parle. En une minute, il y a 13 millions de cellules de votre corps qui sont mortes et qui ont été remplacées. Quoi. Donc, vous n'êtes déjà plus le même ou plus la même depuis une minute. Quoi. On change en permanence. On se rend bien compte quand on se regarde dans le miroir le matin et qu'on a, comme moi, passé l'âge de 20 ans, d'accord, on n'a plus tout à fait la même tête aujourd'hui à 57 ans. Et au-delà de ça, d'ailleurs, dans notre corps, dans votre corps, vous savez qu'il y a à peu près 30 000 milliards de cellules. Mais il y a 39 000 milliards de corps étrangers, de bactéries. Donc les corps étrangers en vous sont plus nombreux que les propres cellules de votre corps. Ça interpelle quand même, parce que si ces bactéries, ces substances étrangères n'étaient pas là, vous ne pourriez pas vivre. Si on trouvait demain un antibiotique suffisamment puissant et à spectre suffisamment large pour dégommer toutes ces bactéries, vous cesseriez de vivre. Donc, vous voyez, quand on dit « je suis », comme on peut tous tenter de le dire, la question est vraiment « qui est ce jeu ?» Et ce n'est pas facile de le définir ainsi.
C'est une vraie question. Moi, souvent, quand on me pose la question, tu sais, quand du coup les rôles sont inversés et qu'on m'interview, depuis de nombreuses années, j'aime bien dire que, en tout cas, je me considère, j'ai vraiment le sentiment comme un jardinier, tu sais. J'ai vraiment l'impression de semer des graines comme ça autour de moi pour inspirer les gens. Et en tout cas, pour moi, c'est ma meilleure définition, ce qui me semble le plus cohérent et aligné avec ce que je suis et ce que je fais, et dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle.
Oui, ce qui est une définition qui, quelque part, décrit ta mission, même ta mission sur Terre, on pourrait dire, finalement, si, puisque tu dis que ça s'exprime aussi bien sur le plan professionnel que personnel.
Exactement. Et donc, ouais, aujourd'hui, on va parler d'intuition. C'est un sujet, moi, qui me passionne parce que je crois qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, Laurent, ensemble, mais moi, l'intuition, c'est quelque chose qui me suit depuis que je suis tout petit. J'écoute mon intuition vraiment depuis vraiment que je suis tout petit. Tout ce que j'ai mis en place dans ma vie perso et pro, c'est vraiment la résultante de l'écoute de mon intuition. Donc, je suis vraiment très câblé à ça. Et donc, j'aimerais bien que tu as commencé un peu à nous donner une définition de ce que pourrait être l'intuition. Mais j'aimerais bien qu'on rentre plus en profondeur pour que les gens puissent comprendre et faire la distinction, parce que je crois que c'est pas évident dans notre vie de tous les jours, justement, d'écouter notre intuition et de faire la distinction entre cette première information, c'est comme ça que moi je le vis, hein, cette première information qui arrive, et ensuite, on va dire, l'ego ou notre cerveau qui prend le relais, qui commence à réfléchir. Et donc, du coup, on n'écoute pas cet instinct, tu vois, cette petite voix, ce truc qui dure quelques millièmes de secondes, quoi. Est-ce que toi, tu fais vraiment le distinguo entre cette première information puis le reste, quoi, notre cerveau qui prend la suite quelque part, quoi.
Alors, c'est pas facile, hein, j'arrive pas toujours. Moi, je dirais que la première chose pour répondre à ta question, si on veut plus écouter son intuition, c'est déjà d'être convaincu que ça existe, quoi. Et c'est pas anodin, donc ça vaut le coup quand même d'en parler. Moi, tu vois, tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, même si j'utilisais volontiers le terme d'intuition, y compris me concernant, en disant j'ai une bonne intuition. En fait, au fond, moi, j'y croyais pas, quoi. Je me disais, voilà, parfois, il y a de beaux hasards, quoi. Il y a de jolies coïncidences. Mais pour moi, l'intuition, hein, dans le sens où le dictionnaire définit, c'est cette capacité à accéder à n'importe quelle information, quoi, autrement qu'en utilisant directement nos cinq sens, quoi, une information qui n'est pas directement accessible par nos cinq sens, donc quelque chose qu'on peut ni directement voir, entendre, écouter, sentir ou goûter. Moi, je n'y aurais pas cru, personnellement. C'est vrai que je suis de culture scientifique, donc à la base, je suis quand même assez rationnel. Bon, honnêtement, j'aurais pensé que c'était des bêtises, quoi. Bon, aujourd'hui, je sais que ça ne l'est pas, non seulement parce que j'ai été conduit à l'expérimenter, je vous raconterai si vous voulez dans quelles conditions tout à l'heure, mais au-delà de ça, parce que je me suis documenté, je sais que ça a été prouvé scientifiquement. Donc on sait aujourd'hui que ça existe, il y a zéro doute là-dessus. Ça existe. Donc nous avons, vous avez tous et toutes qui nous écoutez, cette capacité en vous d'accéder à une information, je dirais à n'importe quelle information, que ce soit concernant une personne, concernant un événement, concernant un lieu, concernant un objet, y compris si cette personne, ce lieu ou cet événement est situé à l'autre bout du monde. On a cette capacité. Ça semble dingue, moi en tout cas je l'aurais pensé il y a 10 ans, au moins, 8 ans, mais c'est la vérité. Donc maintenant, la deuxième partie de ta question, Julien, c'est comment être au contact de son intuition et faire la part des choses entre l'intuition et ce qui est créé par notre cerveau ou notre ego, tu disais. Alors, ce n'est pas évident. Pourquoi ? Parce que notre ego, notre cerveau, notre ego aussi d'ailleurs, notre cerveau est très présent, c'est-à-dire notamment, évidemment, quand on a fréquenté un peu l'école, eh bien, on nous a appris à être beaucoup dans notre tête finalement, d'accord, à réfléchir, surtout en France, hein. On est quand même la patrie de Descartes, je pense, donc je suis, même si le sens que Descartes donnait à ces mots n'était pas tout à fait celui qu'on a retenu, mais bref, peu importe, on est quand même un pays très, très, très rationnel, donc très dans le mental. Et donc, plus on a fait des études longues, plus on a tendance à réfléchir uniquement, à utiliser beaucoup plus notre tête que notre corps. Or, voyez-vous, l'intuition, eh bien, ça ne se passe pas dans la tête, bizarrement. Je dis bizarrement parce que quand une idée vous vient et qu'elle s'avère juste, d'accord, concernant une information, et que donc c'est une intuition, vous avez le sentiment qu'elle est venue dans votre tête, que ça s'est créé dans votre esprit. En vérité, non, l'intuition se manifeste dans le corps. Dans tout le corps, mais pas dans le cerveau. Et elle se manifeste comment ? Parce qu'en fait, le corps, on pourrait dire, est une sorte de miroir de la réalité extérieure. Donc la réalité extérieure se réfléchit dans notre corps. Et donc notre corps, en fait, est le médium qui nous permet d'accéder à l'information intuitivement. Alors ça se manifeste comment dans le corps ? Et bien là, première difficulté, c'est qu'on n'est pas tous pareils. Donc, l'intuition va se manifester dans différentes zones du corps. Donc, pour moi, par exemple, oui, c'est beaucoup dans le ventre que ça se passe. Je tape le ventre en vous parlant. Moi, je ressens les choses dans mon ventre, plutôt mon bas-ventre. Et je ça se passe là, si vous voulez. Par exemple, je vous donne un exemple basique. S'il y a une décision à prendre il y a une direction dans laquelle je peux aller, je vais essayer de sentir comment je le sens, et d'ailleurs c'est une expression populaire très juste pour le coup, c'est à moi comment je le sens dans mon ventre, quoi. Est-ce que je sens quelque chose de positif ou est-ce que je sens quelque chose de plutôt lourd que je peux interpréter comme étant négatif, d'accord, ça se passe dans mon ventre. Mais chez d'autres personnes, ça va se passer dans les mains, il va y avoir des micro-mouvements dans les mains, chez d'autres, ça paraît-il, ça peut être des micro-mouvements des cils. En tout cas, l'information, quand elle arrive en nous, quand elle se manifeste dans notre corps, elle engendre des micro-mouvements qu'on peut donc apprendre à capter et ensuite à décoder. Mais ça vient d'abord dans le corps, et en fait, quand on a conscience de l'information, c'est que l'information est remontée du corps à notre esprit, à notre conscience, d'accord ? Vraisemblablement à travers le subconscient, hein, comme dirait Freud, donc cette zone entre l'inconscient et le conscient, et donc tout le jeu ensuite pour bien accéder à ces intuitions consiste à faire remonter ces informations. D'accord ? Et la difficulté, elle est là. Pourquoi ? Parce que dans notre corps, elle se manifeste de manière uniquement sensorielle. Je vous le dis, ce sont des choses qu'on ressent, ce sont des choses qu'on peut aussi entendre, hein, mais ça peut être des images qu'on peut voir, mais à un moment donné, c'est dénué de sens, si vous voulez. Donc l'information vient de manière totalement sensorielle. Et qu'est-ce qui va donner du sens ? Eh bien, en fait, c'est la plupart du temps notre cerveau, c'est-à-dire on va interpréter cette information qui est purement sensorielle, dénuée de sens. Le problème, c'est quand on l'interprète 9 fois sur 10, si ce n'est pas 99 fois sur 100, on se trompe. Et donc, tout le jeu consiste à ne pas s'interpréter, et être vraiment à l'écoute d'un ressenti et capter un maximum d'informations donc sensorielles, à savoir qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je goûte, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je perçois comme forme, etc. Un maximum d'informations en s'interdisant de les interpréter. Et après, seulement quand vraiment je pense avoir fait le tour de toutes les informations que je pouvais capter, à ce moment-là, prendre du recul et se dire « Ok, donc j'ai perçu ça, ça ou ça, comme son, comme odeur, comme forme, comme information sensorielle, qu'est-ce que ça peut être finalement ? Quelle peut être la vérité, la réalité derrière ces informations qui sont dénuées de sens ?» D'accord ? Mais seulement dans un deuxième temps.
Alors ça c'est, j'allais dire, dans un cadre idéal. Je me mets à la place des gens qui nous écoutent et qui nous écouteront. Le sentiment qu'on peut avoir à chacun et chacune, quand même, globalement, c'est que tout va très vite dans notre société. On court à droite, à gauche, déposer nos enfants, s'occuper de notre travail, aller faire les courses, etc. Enfin, tout va très, très, très vite. Et donc, c'est une impression commune qu'on me dit souvent, mais à quel moment, en fait, je prends du temps, ne serait-ce que déjà pour moi, en fait, tu vois, pour s'occuper de moi. Rien que ça, déjà, ça semble très challengeant pour une grande partie de la population. Et donc, je me dis, c'est encore plus challengeant, justement, comme ça va très, très vite, en tout cas. Pour moi, c'est un leurre, c'est une impression que tout va très vite. On peut très bien faire un pas en arrière juste pour observer. Quel conseil, en fait, on pourrait donner justement à... Ouais, pour moi, c'est une grande majorité de la population qui vit ça, qui le ressent. Dire, OK, il a raison, Laurent, je suis OK avec ce que dit Julien, mais à quel moment, moi, je peux vraiment me connecter quelque part ? Ce que tu dis, c'est se connecter à soi. Et dans le flux de la vie où on a l'impression, et j'aime bien insister sur impression, que tout va très vite... comment on fait, tu vois, comment on fait pour te, pour prendre ce temps et dire, OK, je m'écoute.
Quoi. Il y a deux choses, je dirais. D'abord, en effet, la plupart des gens ont une vie active, ils travaillent à l'extérieur de chez eux, donc ils se rendent sur un lieu de travail, que ce soit un bureau ou autre. Ils ont des objectifs à atteindre, ils ont des horaires de travail, ils ont parfois des temps de transport qui peuvent être assez longs. Et donc, ça conduit en fait, les gens à courir, tu le dis, quoi. Et après, on rentre à la maison et puis on a tous des corvées. Il faut s'occuper de la maison, du ménage, de la vaisselle, des courses, des enfants, etc. Et finalement, il reste très peu de temps pour soi. Donc ça, c'est la première question. C'est comment, dans ce contexte de vie active et très prenante, je peux m'accorder un petit peu de temps. Quand tu dis c'est une impression, oui, c'est une impression. Et en même temps, en effet, les gens ont comme beaucoup de choses dans leur agenda. Moi, je dirais que le temps, on peut s'accorder déjà si on saisit l'utilité. C'est-à-dire, notre cerveau choisit nos actions en fonction de leur pertinence. Donc, il faut d'abord être soi-même intimement convaincu de l'utilité de prendre du temps pour soi, de rester seul avec soi-même sans rien avoir à faire. Et si vous êtes absolument convaincu des bénéfices que vous pouvez retirer, je pense que vous trouverez le temps, ne serait-ce que 5 minutes par jour. Voilà, vous pouvez voir si c'est le meilleur moment au réveil, ou au coucher, ou quand vous voulez. Mais ça peut se trouver, en effet. Mais il faut en être convaincu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais, c'est que au-delà de nos vies qui peuvent être très, très prenantes, il y a autre chose, c'est que maintenant, on a de moins en moins de temps vide. C'est-à-dire, même si vous n'avez rien à faire, et même quand vous n'avez rien à faire, y compris, je ne sais pas, à un certain moment, le dimanche ou autre, en général, les gens sont moins occupés, qu'est-ce qu'on peut tous avoir tendance à faire ? On a tendance à attraper nos écrans, d'accord ? Ou celui-là, le téléphone ou l'ordinateur, et à se plonger dans un monde virtuel qui présente certes un certain intérêt, hein, c'est pour ça qu'on y va, mais qui nous éloigne de nous-mêmes, de notre corps, une fois de plus. C'est-à-dire, quand vous êtes sur un écran, votre attention est happée par les informations divulguées par cet écran, que ce soit des informations liées à un jeu vidéo, un film que vous visionnez, ou à des news que vous lisez sur un site de news en ligne, peu importe. Dans tous les cas, votre attention est accaparée par cet écran. Il est accaparé par cet écran, donc il n'est plus sur votre corps. Et on le sait bien, c'est presque une forme d'auto-hypnose, d'accord ? Vous êtes tellement accaparé que vous ne ressentez pas forcément certaines sensations de votre corps, y compris peut-être de la faim ou autre. On se coupe un petit peu quand l'attention est accaparée par l'extérieur. Ça va même encore plus loin quand on comprend les mécanismes neurologiques à l'œuvre, c'est-à-dire toutes les applications qui existent sur les écrans font tout, et c'est leur modèle économique, ils font tout pour nous maintenir en ligne. Ils en ont besoin, une fois de plus, pour leur modèle économique. Donc, ils usent de stratagèmes pour exciter notre attention et faire en sorte qu'on reste de plus en plus connecté. ça peut être sous forme de micro-récompense, entre guillemets. Une récompense, ça peut être aussi bête que un like sur votre page Facebook ou une petite flamme sur une autre application, je ne sais quoi. Tout ça, ce sont des choses en fait, qui font que vous vous sentez une micro-onde de plaisir en vous. Et comme vous ressentez cette onde de plaisir, eh bien, ça vous donne envie de, bah, de rester et de continuer. Et cette onde de plaisir, elle se caractérise comment sur le plan neurologique? Alors, je ne suis pas médecin, mais d'après ce que j'ai compris, ça correspond à la libération en fait, dans le cerveau, dans l'organisme, d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Et la dopamine, c'est, on l'appelle vulgairement l'hormone du plaisir, elle a une fonction de l'organisme qui est d'activer ce qu'on appelle le circuit de la récompense. C'est en fait la dopamine, elle est libérée dans votre corps quand vous réussissez quelque chose, par exemple. Que ce soit au boulot, ou quand vous travaillez sur un dossier, ou si vous êtes étudiant, quand vous réussissez, je sais pas, un problème de maths ou autre, ou si vous écrivez, quand vous réussissez à trouver la bonne formulation qui vous satisfait, hop, décharge de dopamine. Si vous êtes sportif, quand vous réussissez, voilà, un exploit sportif, même un micro-espoir, exploit, vous ressentez cette décharge de dopamine. D'accord? Et, mais vous la ressentez aussi accessoirement quand vous mangez, par exemple. La fonction de cette dopamine, c'est quoi? C'est de vous encourager à reproduire la chose. D'accord? Donc, vous réussissez quelque chose au plan personnel, professionnel, sportif, ben, c'est utile de reproduire ça. Et donc, cette décharge de dopamine va vous inciter à reproduire ce que vous voulez ressentir à nouveau, cette dopamine qui est l'hormone du plaisir dans votre corps. Si vous la ressentez en vous nourrissant, par exemple, c'est parce que, en tout cas, lors de nos origines, enfin, à une époque où c'était difficile de trouver de la nourriture, c'était très important que vous soyez motivé pour trouver la nourriture. Parce que, naturellement, c'est essentiel pour notre survie, quoi. Donc, pour vous motiver à trouver la nourriture, c'est important que cette nourriture soit associée à une sensation de plaisir. La décharge de dopamine. Pour revenir à nos écrans, le problème avec les écrans, c'est que toutes ces applications, tous ces trucs en ligne, en fait, induisent en nous des décharges de dopamine. Très facilement. Très facilement, parce que c'est très facile d'avoir une petite flamme, un petit like, tout ce que vous voulez, ou marquer des points sur un jeu vidéo. Ça peut être plusieurs fois par minute, d'accord? Alors qu'en vérité, vous n'avez pas fait grand-chose pour mériter, entre guillemets, cette dopamine, d'accord? Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on est tous accro à la dopamine, d'accord? C'est fait pour ça, c'est le rôle de la dopamine, nous inviter à reproduire. Et donc, à l'écran, en fait, on est incité à rester de plus en plus sur nos activités, que ce soit sur des jeux vidéo ou n'importe quelle appli, quoi. Et ça c'est un problème. C'est si vous croyez que vous êtes accro à vos écrans ou que vos adolescents sont accro à des écrans, c'est pas tout à fait vrai. Vous êtes ou ils sont accro à la dopamine que ça leur procure, d'accord? Et donc ça devient super difficile, moi je trouve, à notre époque, encore plus difficile qu'avant où on avait simplement entre guillemets une vie active prenante. Ça devient beaucoup plus difficile d'éteindre tout ça et de se dire je reste seul avec moi-même. Ne serait-ce ne fait plus que 5 minutes par jour, et idéalement beaucoup plus, bien sûr, mais ne serait-ce que 5 minutes par jour, se dire, OK, ces 5 minutes, elles sont pour moi, je ne travaille pas, je ne fais rien, je ne joue pas, et surtout, j'ai éteint tous ces écrans. Je ne peux pas être dérangé, je ne laisse pas mon attention accaparée par ces outils qui me donnent des décharges de plaisir. Je reste seul avec moi-même, avec mon corps, et je ressens. Alors, ça peut sembler profondément ennuyeux, et en effet, bon, il ne se passe pas forcément grand-chose, et ce n'est pas grave, quoi. Simplement, ça aide à retrouver le contact avec son corps. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut faire. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin et pratiquer la méditation. C'est très en vogue, on en parle beaucoup, mais c'est puissant. C'est puissant précisément pour se reconnecter à son corps. La plupart des techniques de méditation reposent en effet sur le fait de diriger notre attention à l'intérieur de notre corps, sur nos ressentis. D'accord, être très présent et écouter notre respiration, toutes ces choses-là. Donc tout ça, ça va aider à se reconnecter à soi-même. Et cette reconnexion à soi est un préalable nécessaire au développement de, non pas de l'intuition, parce qu'on a tous naturellement de l'intuition, mais de l'accès à l'intuition.
Oui, je suis d'accord et je trouve que c'est une bonne transition. L'observation que je peux faire depuis de nombreuses années, en tout cas, je crois que ça a toujours été le cas, je me suis toujours dit ça, j'ai vraiment le sentiment que la majorité d'entre nous, tu sais, moi je les imagine un peu comme des cerveaux sur pattes. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on est tous, 80% de la population, déconnectés de notre corps. Tout est concentré dans notre cerveau. Et d'ailleurs, je trouve que ça passe aussi par l'éducation. Hein. Quand tu vas à l'école, on est à fond sur le savoir, sur les connaissances, et très peu sur le savoir-être et sur la connaissance de soi. Donc c'est une suite aussi logique du conditionnement de la société dans laquelle on se trouve. Et donc ça résonne ce que tu dis, tu vois, de se reconnecter à son corps. Ça me paraît vraiment un des éléments, mais fondamental avant tout le reste.
C'est fondamental, c'est essentiel. Un micro-exemple, parce que je pense que c'est utile de donner des micro-exemples. Quand vous êtes dans une file d'attente, c'est pénible les files d'attente, personne n'aime ça. C'est hyper tentant, et moi le premier, je suis tenté de sortir le téléphone et puis d'aller lire un truc. Ou, vous voyez, et en même temps, ben, voilà, c'est dommage, une file d'attente est un bon moment ou un bon moyen de vous reconnecter à votre corps. Et pas seulement à votre corps d'ailleurs, comme on dit en méditation, à l'instant présent. Et se dire, ok, là, je suis bloqué pendant quelques temps, quelques minutes ou un peu plus, dans une file d'attente. Ok, si j'ai le courage de laisser mon téléphone dans ma poche, je regarde autour de moi. Déjà, j'observe les gens et c'est vachement sympa. C'est quand on observe des gens, on découvre des choses, on comprend des choses. Et puis, je peux aussi ressentir voilà, ce qui se passe autour de moi, que je sois dans la nature ou dans la ville, plutôt une ville, c'est une file d'attente en général. Mais, et puis aussi, ben, mon corps, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Tiens, j'ai un agacement, ça se manifeste comment? Ah, j'ai peut-être une épaule un peu raide. Tiens, et si j'essayais de me détendre un peu l'épaule, faire quelques mouvements? Enfin, vous voyez, rester avec soi-même et rester dans l'instant présent. Et ça, on subit tous des files d'attente régulièrement. Ce sont des occasions merveilleuses pour vous reconnecter à vous-même et à l'instant présent.
Oui, puis j'ai envie de rajouter même tout simplement à notre respiration. Je pense que tu es aussi bien au courant que moi que, bah, pareil, hein, on est déconnecté de notre respiration. En fait, on ne nous a pas appris à bien respirer. Hein, quelque part, on respire tous de manière très automatique. Mais ça s'apprend réellement de bien respirer. Et ça pourrait être l'occasion, comme tu dis, dans une file d'attente, de se reconnecter à sa respiration, tu sais, de sentir l'air qui rentre et qui ressort, rien que ça. Déjà, je pense que si les gens nous écoutent là et qu'ils font l'exercice, ils vont s'apercevoir qu'ils sont en train de respirer.
Oui, tout à fait, tu as raison. Et on peut d'ailleurs découvrir à cette occasion que c'est un plaisir de respirer. C'est l'acte le plus banal au monde. On le fait dès la première seconde de notre naissance jusqu'à la dernière seconde avant notre mort. Et pourtant, c'est un vrai plaisir, hein, si vous prenez le temps vraiment d'inspirer profondément, de ressentir l'air qui passe à travers dans votre narine, votre trachée, quand ensuite vous expulsez, là, qui irradie vos poumons. C'est super agréable, en fait. Donc c'est un bon moyen de trouver une autre source de plaisir que celle que nous fournissent les écrans.
C'est ça. Et autre chose aussi que j'ai pu découvrir dans mon parcours, c'est que, tu sais, dans le monde de la connaissance de soi et du développement personnel, j'observe que beaucoup de personnes s'intéressent à plein de choses, à plein de domaines, tu sais, aux énergies, à l'intuition, je sais pas, au Reiki, à la télépathie, à tout ce que tu veux. Il y a quand même la sphère du bien-être englobe beaucoup de secteurs d'activité. Et moi, je trouve que les gens oublient de revenir aux fondamentaux. Et donc là, je trouve que c'est le vrai sujet aussi autour de l'intuition. C'est-à-dire qu'avant de commencer à vouloir s'intéresser à écouter son intuition, et si on revenait aux fondamentaux, c'est-à-dire à retrouver une alimentation saine, tu sais, qui nous apporte de l'énergie et de la vitalité, hein, peut-être remettre du mouvement dans sa vie si on a très peu de mouvement dans notre vie, peut-être tu vois une activité sportive, de faire attention au sommeil, d'aller dans la nature, tu peux aller dans la nature le plus souvent possible, de faire des exercices de relaxation, tu vois, ça me paraît vraiment les fondamentaux. Je pense que s'ils étaient vraiment appliqués dans notre vie, bah, ça nous permettrait davantage d'être connectés à notre intuition et à notre partie créative.
Tout à fait, et c'est essentiel ce que tu dis, parce qu'en fait notre corps sait ce dont il a besoin. Et que ce soit sur le plan physique, tu parlais d'activité physique, ou d'alimentation que tu évoquais aussi, dans tous les cas, notre corps sait ce dont il a besoin. Moi, vous voyez, parfois, j'ouvre un jour un placard, je vais chercher une tablette de chocolat, mon corps n'en a pas besoin. Si je prends le temps de me poser 5 minutes en me disant « Est-ce que vraiment j'ai envie de ça ?» La réponse sera non, assez souvent. Qu'est-ce qui me pousse à ouvrir le placard et à prendre le chocolat? C'est la volonté d'avoir du plaisir. La volonté d'avoir le plaisir. Mais le plaisir, ce n'est pas mon corps qui le réclame, c'est plutôt mon cerveau, une fois plus, qui a envie d'une décharge de dopamine. D'accord ? Et donc, si on apprend à être vraiment en contact avec notre corps et interroger notre corps en lui demandant « Tiens, qu'est-ce que tu as envie de manger aujourd'hui ?» Faites l'expérience, vous voyez, en plus, on approche de l'heure du repas, ça aussi, c'est déjà fait pour vous. Interrogez-vous et dites-vous « Ok, qu'est-ce que mon corps a envie d'absorber aujourd'hui ? De quoi il a besoin ?» Et vous verrez que les réponses viennent assez facilement, en fait, à votre esprit. Sauf qu'on a perdu l'habitude de se poser la question, parce qu'on va machinalement soit se diriger vers un buffet du restaurant d'entreprise ou je ne sais où, soit on ouvre le placard, puis on a fait les courses, on va prendre ce qu'on a préparé, ou prévu plutôt, mais en fait, notre corps sait ce dont il a besoin. Une fois, j'ai dialogué avec une navigatrice qui s'appelle Anne Kemerec, et elle me racontait qu'elle a traversé notamment l'Atlantique à la rame, si ma mémoire est bonne, et elle me racontait que quand elle est en mer, son corps sait exactement ce dont il a besoin. Elle est tellement connectée à elle-même, elle n'a pas d'écran, hein, elle a rien de tout ça, et elle est connectée à elle-même et à la nature, et en tout cas à l'instant présent, vous voyez, quand vous êtes en mer. Et elle disait, mais voilà, si j'ai envie de chocolat, c'est que mon corps a besoin de chocolat. Si j'ai envie de noix, c'est que mon corps a envie de noix, etc. Et elle est parfaitement en contact avec son corps, elle sait ce dont son corps a besoin.
Oui, c'est ce qu'on appelle l'intelligence naturelle, en fait, de notre corps.
Oui. Tu vois, un autre exemple par rapport à l'activité physique, parce que tu l'évoquais à l'instant, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est que parfois, dans certaines conférences, je fais une petite initiation à la méditation. Je donne une méditation guidée. Et en général, ça commence par le conseil suivant qui est adopter une posture confortable. Et là, s'il y a 500 personnes dans la salle, il y a 500 personnes qui vont changer de posture. Ce qui signifie que leur posture n'était pas confortable. Sauf que personne n'a demandé à ce qu'on ait une posture inconfortable. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, toutes ces personnes, quasiment toute la salle, donc tout le monde, et donc moi je m'inclure aussi, avaient une posture inconfortable sans s'en rendre compte. Et si on ne s'en rendait pas compte, ça veut dire qu'on n'est pas dans notre corps à ce moment-là, on est ailleurs. D'accord ? Donc vous voyez, le fait de revenir le plus fréquemment possible dans son corps permet d'être en contact avec les besoins de notre corps.
Tout à fait. Et puis, comme tu le disais, comme on se le dit là, depuis une petite demi-heure, 5 minutes par jour, c'est déjà amplement suffisant.
Oui. Et puis après, moi, je fais le pari que vous y trouverez tellement de bienfaits que vous aurez envie d'étendre un petit peu ça. Mais il vaut mieux commencer par 5 minutes par jour que de se donner des objectifs trop ambitieux. Et vous pouvez après dire, OK, ça, je suis convaincu, c'est génial. Allez, je vais prendre une demi-heure tous les jours. Et c'est peut-être trop ambitieux, quoi, parce que peut-être que c'est quand même difficile de caser une demi-heure dans votre emploi du temps. Voilà, soyez humble, visez 5 minutes, et il vaut mieux viser 5 minutes et s'y tenir dans la durée, plutôt que viser une demi-heure et tenir 8 jours.
Tout à fait. Ce que je trouve intéressant sur ton parcours, Laurent, c'est que, comme tu le disais, tu es plutôt quelqu'un de cartésien, fait des études scientifiques, donc pragmatiques, hein, on va dire. Donc j'aime bien, tu vois, rencontrer ces personnes qui passent à un moment donné dans leur vie du pragmatisme. Je vis l'expérience, je me renseigne, et donc du coup, bah oui, en fait, je valide quelque chose qui à l'époque pour moi était impossible à valider. Et je pense qu'il y en a beaucoup, tu sais, qui vont se retrouver là-dedans. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas réellement ce que c'est l'intuition. Alors encore plus, hein, si on extrapole la télépathie, la télékinésie, des compétences qu'on pourrait peut-être déjà avoir en nous et qu'on pourrait développer. Pour quelqu'un qui est cartésien là, qui nous écoute et qui nous dit, moi j'adore les livres de Laurent, mais bon, alors moi, franchement, l'intuition, ça me parle pas. Moi, ce que j'ai envie de leur dire avant que toi tu répondes, c'est faites des tests, en fait. Arrêtez, oui, que ce soit cérébral. Vivez l'expérience et puis vous verrez bien. Même jouer avec ça, que ce soit un jeu, tu sais.
Tout à fait, tout à fait. Alors moi, je crois beaucoup en plus dans les vertus de l'expérimentation et dans tous les domaines, y compris sur le plan spirituel, d'ailleurs. Et là, c'est facile, en plus, c'est que l'intuition. Si vous voulez expérimenter ça, demandez à un ami, un conjoint qui vous voulait, par exemple, de penser à un lieu, choisir pour vous un lieu et ne vous donner aucun indice au sujet de ce lieu. Vous voyez, il prend un lieu mystère, donc, alors si possible, un lieu qui comporte des caractéristiques très spécifiques, parce que bien, s'il prend une rue dans une ville, bon, ça va ressembler à n'importe quelle autre rue dans n'importe quelle autre ville, quoi, d'accord ? Donc, un lieu qui comporte des éléments vraiment un peu particuliers. Quoi. Et puis, éventuellement, il en imprime la photo et qu'il le cache dans une enveloppe ou n'importe où. Et puis, vous prenez un petit peu de temps, hein, vous mettez seul, hein, dans un coin et vous essayez de vous connecter à ce lieu. Alors déjà, vous allez me dire, mais comment je fais pour me connecter à un lieu ? C'est pas très rationnel. Non, c'est pas rationnel, en effet. Mais imaginez que vous êtes sur ce lieu. Voilà, vous prenez quelques minutes, vous dites, je suis sur ce lieu, je suis connecté à ce lieu, et vous vous posez en boucle la question, c'est comment ? Alors ça, c'est essentiel. C'est la question à ne surtout pas poser, c'est quoi ? Quel est ce lieu ? Si vous essayez de savoir qu'est-ce que c'est que ce lieu, qu'est-ce qui se passe, en fait, vous activez votre mental. Votre mental va se mettre à gamberger en disant, qu'est-ce que ça peut être ce lieu ? Ah, bah, tiens, connaissant mon ami ou ma femme ou je ne sais qui, sans doute qu'il aura pris tel lieu parce qu'il aime bien y aller. Enfin, vous allez gamberger, quoi. Et vous ne trouverez jamais. Donc, ne cherchez surtout pas à savoir ce que c'est. Ce n'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est d'entrer en contact avec son intuition. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intuition se manifeste dans le corps, sur les choses que vous ressentez, que vous entendez, que vous voyez, que vous sentez ou que vous goûtez. Donc, posez-vous des questions comment ? comment est ce lieu? Comment sont les formes présentes dans ce lieu? Comment sont les sons éventuellement présents dans ce lieu, s'il y a des sons? Comment sont les odeurs qui sont peut-être dans ce lieu? Comment est la température de ce lieu, etc. Posez plein de questions autour du comment. Et voyez ce qui vient. Et essayez, alors c'est compliqué, hein, essayez de débrancher votre mental, c'est-à-dire dites-vous, pendant, je vais faire le jeu pendant 10 minutes, et pendant 10 minutes, je me transforme en l'idiot du village, parce que c'est ça qui va faire que ça marche. En fait. L'idiot du village, vous voyez, imaginez, c'est celui qui ne se pose pas de questions. Quoi. La seule question que vous vous posez, c'est comment faire. Et notez ce qui vient. Et quand quelque chose vient, vous interrogez pas, parce que moi je faisais ça au début, je me disais, ah oui, mais qu'est-ce qui me prouve que ce qui vient, c'est de l'intuition, et que ce n'est pas mon mental qui m'a fourni cette réponse. Vous vous en fichez. Vous vous en fichez. La seule chose qui compte, c'est comment. Et vous notez ce qui vient. Prenez une feuille de papier, vous notez ce qui vient. Les uns au-dessous des autres, vous notez les mots qui vous viennent. Ne cherchez pas à savoir d'où ça vient. Voilà, vous dites, c'est comment. Comment sont les couleurs? Vous voyez du bleu. Vous interrogez pas. Vous notez bleu et basta. Après, vous dites, c'est comment la température? Ah, c'est chaud. Je note, c'est chaud. Vous voyez, amusez-vous comme ça. Et puis, une fois que vous êtes posé plein de questions, que vous avez le sentiment d'avoir épuisé... tout ce qui est venu, et bien c'est, vous avez écrit hein, surtout, et bien à ce moment-là, vous ouvrez l'enveloppe ou le tiroir dans lequel votre ami, votre conjoint a caché la photo du lieu. Quoi. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce lieu, il ressemblera en rien à ce que vous avez visualisé, parce que votre mental vous aura sans doute fourni 1000 images de lieux potentiels, et vous direz, ah ben, ça ne ressemble pas du tout à ça, là, je suis super déçu, ça n'a pas marché. Et c'est normal, parce que par l'intuition, vous n'allez pas savoir qu'est-ce que c'est, vous allez savoir comment c'est. Donc, lisez votre liste de mots qui sont vraisemblablement des adjectifs, si vous avez posé la question comment, hein, sera des adjectifs, et regardez cette liste d'adjectifs et voyez en quoi ils décrivent ou non le lieu en question. Si vous avez vu du bleu, ben, est-ce qu'il y a du bleu sur la photo, quoi, dans le lieu? Si vous avez vu des formes triangulaires, est-ce qu'il y a des formes triangulaires dans ce lieu, quoi? Vous voyez, donc ça, c'est vraiment une expérience que vous pouvez faire vous-même. On peut beaucoup s'amuser avec ça et vous verrez, c'est assez bluffant.
Ouais, moi, j'aime beaucoup l'idée du jeu, tu sais, pour justement mener des expériences et essayer des choses comme ça. Donc ça, oui, c'est une première idée. Deuxième idée qui me vient à l'esprit, peut-être que tu en as vu dans tes recherches. Moi, je trouve qu'il y a des films aussi, des documentaires qui sont très intéressants autour de l'intuition. Pour ceux qui aimeraient, tu sais, aller plus loin et qui sont aussi donc du coup pragmatiques, il y a déjà quand même, oui, des docus qu'on mis en scène avec des scientifiques, des protocoles pour montrer tout ça fonctionne. Ça pourrait être aussi une autre idée.
Oui, tout à fait. Puis vous pouvez aussi vous rendre sur le site d'Iris, d'Alexis Champion, en fait, qui m'a initié à l'intuition. Je ne l'ai pas raconté tout à l'heure, mais je peux vous le dire. En fait, pour moi, tout a commencé il y a 8 ans, à peu près, je crois. Je donnais une conférence à Paris et un inconnu vient me voir à l'issue de la conférence. Il me dit, voilà, je m'appelle Alexis Champion, et je suis un spécialiste de l'intuition et notamment du remote viewing. Et je propose de vous former. Et il me dit gracieusement à ça pendant 3 jours en tête à tête. Bon. Alors, remote viewing, j'en avais entendu parler. Hein. J'avais lu un article, je savais que c'était une méthode développée aux États-Unis pour accéder sur comment à son intuition. Donc, moi, je suis une nature curieuse, ça m'intéressait. Quoi. Maintenant, quand un inconnu vient me voir et me propose de passer 3 jours en tête-à-tête avec lui, je fais un petit peu sur la défensive quand même. Et donc, j'ai un peu botté en touche ce jour-là. Et il est revenu vers moi 2-3 mois plus tard. Et là, j'ai cédé. Quoi. J'ai dit, OK. Donc, j'ai loué un lieu, parce que je voulais quand même maîtriser certaines choses. Et puis, ça me rassurait. Et puis, j'ai passé 3 jours avec Alexis. Quoi. Et en effet, dès la première matinée, il m'a fait travailler sur un lieu mystère, comme je le suggérais à l'instant. Alors, je me souviens très bien, parce que c'était une cave d'affinage de fromage. Quoi. Je l'ignorais, je n'avais aucun indice. Donc, moi, quand j'ai commencé à appliquer la méthode, parce qu'il y a une méthode mais qui est très structurée, j'ai commencé à percevoir très vite des choses. Et surtout, j'avais des images toutes faites, dont j'ignorais qu'elles étaient créées par mon mental, en fait, par mon cerveau. Donc, j'ai vu une plage déserte avec des cocotiers horizontales, une vieille image d'Épinal, je devais avoir envie de vacances à ce moment-là. Et c'était naturellement pas ça, quoi, parce qu'il ne fallait pas chercher qu'est-ce que c'est, mais comment c'est. Et donc j'ai abouti, comme je vous ai invité tout à l'heure, à une liste d'adjectifs sensoriels, de choses que j'avais cru capter, percevoir, sentir, voir, entendre concernant ce lieu mystère. Et quand il a ouvert l'enveloppe, qui était une enveloppe Kraft, donc bien opaque, posée sur le bureau devant moi, et que j'ai vu cette cave d'affinage de fromage, bah, j'étais super déçu, parce que je n'avais pas visualisé ça. J'avais visualisé une île déserte, en l'occurrence, peut-être d'autres choses dont je ne me souviens plus, mais pas une cave d'affinage. Donc j'étais très déçu. Et quand Alexis Champion m'a invité à lire la liste d'adjectifs, j'ai trouvé des descriptions quasi parfaites du lieu. Moi, j'avais perçu des lignes horizontales parallèles. Moi, il y avait des étagères qui étaient superposées, naturellement. J'avais vu des formes rondes multiples, et c'était écrit noir sur blanc sur ma feuille de papier. Et il y avait des fromages qui, évidemment, avaient cette forme ronde, et ils étaient nombreux, quoi. Puis j'avais noté que c'était mouillé vers le bas, et il se trouve qu'il y avait une flaque d'eau au sol. J'avais noté que c'était lumineux dans le fond, et il y avait une lucarne dans le fond de la cave d'affinage, quoi. Et quand j'ai compris, en fait, quand j'ai vu que ma liste décrivait parfaitement ce lieu, je me souviens, ça m'a tellement bouleversé, en fait, que je me suis mis à trembler, quoi. C'est-à-dire, ça bouleversait ma vision du monde. Il y a plein de choses qui étaient remises en question subitement par cette petite expérience qui va durer 15 minutes. Je ne voyais plus le monde de la même manière. Parce que pour moi, ce qui venait de se passer était juste impossible. Sauf que ça venait d'arriver, j'en avais la preuve, quoi. À tel point que je me suis mis à douter. Je me suis dit, ça se trouve, il a influencé ma perception, je ne m'en suis pas rendu compte, mais ces questions étaient peut-être biaisées. Donc j'ai exprimé mes doutes. Et il m'a dit, c'est simple, ce qu'on va faire, c'est quand tu rentres chez toi ce soir, tu penses à un lieu, n'importe quel lieu, tu en trouves la photo sur Internet, tu l'imprimes et tu reviens demain avec. Donc je rentre à la maison, je raconte ça à ma femme, et la femme me dit, tiens, j'ai une idée qui me traverse l'esprit, ce sont les géants de l'île de Pâques. Ok, très bonne idée. Je vais sur Internet, je trouve évidemment 1000 photos des géants de l'île de Pâques, je choisis les plus belles, je l'imprime, je plie en quatre dans une enveloppe Kraft, et le lendemain, je la porte et je pose l'enveloppe sur le bureau, quoi. Et Alexis me fait une démonstration. Donc, je lui donne strictement aucun indice, hein, comptez sur moi, parce que j'étais plutôt dubitatif. Hein. Donc, il déroule le protocole, la méthode. Et alors, je me souviens pas de tout ce qu'il m'a dit, de toutes ses perceptions, juste de quelques-unes qui m'ont frappé tellement c'était juste incroyablement juste. Il me dit, c'est grand, c'est rugueux au toucher. Et il me dit, c'est mystérieux et ça attire les gens parce que c'est mystérieux.
Waouh.
Ça rentre pas, hein.
Oui, d'ailleurs, c'est rigolo parce que je vais justement l'interviewer aussi d'ici quelques semaines. Ouais. Oui, parce que, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est la seule école en France.
Je ne sais pas si c'est la seule, en tout cas, c'est très certainement la plus ancienne et puis la plus sérieuse, quoi, parce que c'est vraiment des gens carrés chez Iris. Alexis, lui-même, il a un doctorat en intelligence artificielle. Enfin, c'est pas un charlatan, quoi. C'est quelqu'un de super sérieux et il a fondé cette école qui cartonne d'ailleurs. Ça attire beaucoup de gens, aussi bien des particuliers qui ont envie de se former à l'intuition que des professionnels. Il y a aussi des entreprises qui s'adressent à lui et son équipe pour leurs besoins professionnels. Et puis il est sur des projets de recherche dans au moins deux universités, je crois. C'est passionnant, hein, ce qu'il fait. C'est incroyable.
Depuis cet événement, est-ce que tu as l'impression que ça... Alors, au-delà du fait que ça a bouleversé ta vision du monde, du corps, de l'être humain et de beaucoup de choses, est-ce que tu as le sentiment que ça t'a peut-être aidé, tu sais, dans ta vie de tous les jours ?
Ah ben complètement. Parce que moi, je l'ai dit, je suis rationnel à la base. Donc moi, quand j'avais une décision à prendre avant, j'avais tendance à lister des critères, les hiérarchiser... les pondérer, voilà, une démarche très cartésienne, et puis voir par rapport aux différentes options qui s'offraient à moi, lesquelles répondaient rentrer le mieux dans la grille, lesquelles répondaient le mieux à ces critères. Sauf qu'en fait, quand on fait ça, on se rend compte que déjà plus on a de critères, plus ça devient impossible de choisir. Et puis, pire que ça, quand je faisais ça, souvent, par rapport à une décision à prendre, j'avais une première idée qui me traversait l'esprit, que je rejetais en me disant, soyons sérieux, quoi, soyons un peu rationnels. Et donc, je me forçais à adopter cette méthode qui me conduisait à une décision que parfois, pas toujours, mais parfois je regrettais en me disant, ah, c'est bête que j'ai pas retenu ma première idée parce que c'était la bonne, en fait. Et j'ignorais à l'époque que la première idée, c'était juste une intuition. Donc maintenant, inutile de vous dire que lorsque j'ai une décision à prendre, je cherche pas du tout à hiérarchiser ou à classifier des critères, quoi. La question que je me pose, l'unique question que je me pose, c'est comment je le sens. Qu'est-ce que je sens ? Et ça marche beaucoup mieux, croyez-moi. Ça marche beaucoup mieux. Et d'ailleurs, je pense que chacun d'entre vous, là, vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous le faites déjà. Et notamment pour les plus grandes décisions de votre vie. C'est-à-dire quand vous avez dû, choisir un conjoint, par exemple. Je ne pense pas que vous ayez listé des critères, hein, en disant il faut que l'homme ou la femme que je souhaite rencontrer voilà, doit avoir, je sais pas moi, telle taille, telle mensuration, doit être de telle catégorie socio-professionnelle, avoir telle qualité, pratiquer tel sport. Personne ne fait ça, ben, j'espère du moins. Quoi, c'est... Mais non, c'est à un moment donné, voilà, il y a une rencontre et vous sentez que cette personne que vous rencontrez est la bonne. Vous ne lui posez pas de questions, vous ne faites pas passer un test hein, pour savoir si ça va matcher ou pas. Quoi. Non, vous sentez que vous avez envie de faire votre vie ou au moins un bout de chemin avec cette personne. Donc ça, c'est l'intuition. Vous voyez, donc vous le faites déjà. Moi, je peux vous donner des exemples de décisions que j'ai prises en écoutant mon intuition. Ben, tenez, par exemple, une qui concerne ben, le roman Intuition, qui raconte là, cette fameuse méthode de Raymond Turing. Ben, j'ai été en pleine écriture d'Intuition. C'était, que je ne vous dise pas de bêtises, je crois que c'était en octobre 2021, je crois, voilà, en septembre ou octobre 2021, et mon éditeur m'appelle et me dit « Est-ce que ton livre sera prêt pour une publication dans un an ?» Moi, j'aimerais le publier en octobre 2022. Et je lui réponds tout de suite « Oui, oui, il sera prêt. Je pense que j'aurai fini d'ici 6 ou 8 mois. Enfin, je prends mon temps, mais ce sera prêt largement l'année prochaine. » Il me dit « Très bien. » Et j'avais à peine formulé cette réponse que je ressens dans mon ventre, une fois de plus, quelque chose de très, très lourd, mais vraiment de désagréable. Il y avait une lourdeur désagréable dans mon ventre et que j'interprète comme étant quelque chose de négatif. J'interprète, parce que c'est mon cerveau qui interprète, d'accord ? Factuellement, c'était juste quelque chose de lourd et de désagréable. Et donc, je dis à Philippe Robinet, mon éditeur à l'époque, je lui dis, non, écoute, le livre sera prêt, mais je ne le sens pas. Je ne le sens pas de le publier en octobre 2022. Je ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas, mais je ne le sens pas. Il me répond, écoute, c'est pas très rationnel, mais si tu ne le sens pas, je ne vais pas te forcer. Tu veux le publier quand, ce livre ? Et je lui dis, bah, écoute, on va décaler de quelques mois, on va le publier au printemps. Non, en fait, je me suis trompé dans les dates, c'était en 2020 son appel, et ça devait être publié en octobre 2021. Du coup, on l'a publié en octobre 2022. Sauf que quelques mois après son appel, donc fin 2020, qu'est-ce qui se passe ? Ben, le Covid apparaît sur Terre, et en octobre 2021, donc à la date initialement prévue pour l'apparition d'Intuition, eh bien, c'était le second confinement, et toutes les librairies de France étaient fermées. Quoi. Évidemment, si le livre... avait paru à ce moment-là, ben c'était un peu mort. Quoi. Donc ça, je ne l'avais pas identifié. Alors, je pense que si j'avais adopté la méthode de Raymond Turing, j'aurais pu avoir plus d'informations. Je ne sais pas si j'aurais capté l'apparition d'une maladie ou la fermeture de la librairie, sans doute pas de façon aussi précise, mais j'aurais peut-être eu plus d'informations que je n'en ai eu, mais ce n'était pas nécessaire pour moi. Il me suffisait de savoir que ce n'était pas le bon moment. Donc j'ai dit non, et on n'a pas publié ce livre à ce moment-là, vous voyez. Donc voilà, ça c'est un exemple. J'ai d'autres anecdotes. Je peux vous raconter comment j'ai trouvé la maison dans laquelle je réside aujourd'hui, d'où je vous parle. Eh bien, c'était avec ma famille. On avait décidé de quitter Paris à l'époque et on s'intéressait à une petite ville de Bretagne qu'on connaissait, ma foi, très peu. Et donc, on se rend sur place pour découvrir les différents quartiers. Et un jour, on se promène dans une petite rue qui était longée par un haut mur qui faisait à peu près 3 mètres de haut. Et alors qu'on marche dans cette rue, d'un seul coup, j'ai un ressenti extrêmement fort, suivi d'une idée qui me traverse la tête, à savoir, ça aurait été très agréable de vivre de l'autre côté de ce mur. Totalement irrationnel, parce qu'on ne pouvait même pas voir ce qu'il y avait. Mais le ressenti était tellement fort que j'ai essayé d'escalader le mur, je n'ai pas réussi. Bon, bah, du coup, j'ai passé mon chemin, voilà. Et là-dessus, on rentre à Paris, et 15 jours ou 3 semaines plus tard, je reçois un coup de fil d'un agent immobilier, qui me dit, écoutez, je vais rentrer la semaine prochaine, c'était même pas encore fait, je vais rentrer une maison qui, je pense, peut vous intéresser. Je lui dis, écoutez, ayez confiance en moi, je passerai par vous, filez-moi l'adresse, je suis à 500 bornes, moi, j'ai envie de voir où c'est. Quoi. Donc, il me donne l'adresse, je vais tout de suite sur Google Maps, c'est Google Street, même, je vais regarder, en fait, je me promène dans Google Street pour voir la rue où se trouve la maison, et je me rends compte que la maison en question est juste de l'autre côté du mur, quoi. Donc, voilà, à partir de là, on savait que c'était celle-là, et on le savait tellement qu'on a signé, en fait, avec l'agent immobilier à distance. On savait que c'était là. On a quand même visité pendant le délai de rétractation, mais d'ailleurs, l'agent était très stressé, la propriétaire aussi, mais on a confirmé notre choix, et on est super heureux dans cette maison. On n'avait aucun indice sur la maison en question, on ne pouvait rien voir, rien savoir.
Et je crois que, tu vois, à travers tes exemples, beaucoup vont se reconnaître, parce que je crois que on s'est tous dit au moins une fois dans notre vie, ah, je l'avais su. Ah, pourquoi je ne me suis pas écouté ? Je crois qu'on se l'est tous dit ça au moins une fois.
Je pense. Il y a aussi quelque chose qui a dû arriver à tous ceux qui nous écoutent, en tout cas une bonne partie, c'est de penser à un ami ou une personne de votre famille, mais pas une personne que vous avez au bout du fil tous les jours, vous voyez, quelqu'un dont vous n'avez pas de nouvelles depuis un certain temps, vous pensez subitement et sans raison à cette personne, et dans la seconde, le téléphone sonne, et c'est la personne en question. Voilà, je pense que ça vous est à peu près tous, ça vous est tous arrivé, et ça, typiquement, c'est l'intuition. Vous avez capté l'information de cette personne qui pense à vous au même moment, vous pensez à elle et elle appelle.
Exactement. Là, moi, ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai envie de recommander aux gens, c'est plutôt de, comme on se le disait, c'est de jouer avec ça. Et que si ça se produit, parce que vraisemblablement, ça se produit quand même très régulièrement sur une semaine, si on est vraiment à l'écoute, on a plein de moments en fait, d'intuition hein, pour plein de choses dans la vie de tous les jours, hein, en réalité. C'est de s'amuser avec ça et de suivre en fait, cette première information qui arrive. Et au fur et à mesure, je pense que les gens vont pouvoir vérifier justement que, bah oui, c'est l'information qui est la plus juste.
Oui, tout à fait. Un jour, j'ai demandé à Alexis Champion pourquoi il m'avait gracieusement offert 3 jours de son temps pour me former à ça. Il m'a dit, parce qu'en fait, j'ai écouté des interviews de toi où tu parles de la façon dont tu écris, et j'ai compris, me dit-il, que en fait, tu écris intuitivement. Je lui dis, ah bon, c'est-à-dire ? Il me dit, bah, en fait, oui, ta conscience se déplace, je ne me souviens plus de ces mots, mais ça revenait à ça, ta conscience se déplace dans l'avenir à un moment où ton livre existe déjà, il est écrit, il est publié, et tu le pompes, me dit-il. Bon, mon égo en a pris un coup, parce que je pensais quand même être celui qui concevait mes livres, d'accord ? Donc j'ai appris que je n'étais qu'un voleur, de mes propres livres, certes, mais un voleur quand même, c'est pas très agréable. Et en même temps, ça donnait du sens à un phénomène très bizarre que j'expérimentais depuis le début. Comme tu le disais, ça fait 18 ans que j'écris. Et ce phénomène est le suivant, quand j'écris, les idées me viennent dans le désordre. D'abord, il faut savoir que j'écris pas tout de suite. Là, il y a une longue phase de créativité pendant laquelle en fait, je laisse les idées venir. Je note tout, j'ai toute une organisation avec des grandes feuilles de papier à dessin, parce que ça part dans tous les sens. Et en fait, les idées viennent dans le désordre. C'est-à-dire, je peux avoir l'idée de la fin avant d'avoir l'idée du début, vous voyez, puis après, je vais avoir l'idée du milieu. Et puis, ce qui se passe, c'est que très souvent, j'ai certaines idées qui arrivent dans mon esprit et qui me semblent totalement saugrenues, qui a priori n'ont aucun rapport avec l'histoire, enfin, l'embryon d'histoire, je dirais. Mais je suis dans une posture d'accueil, donc je prends tout, vous voyez, je note. Et ce qui se passe, c'est que parfois, plusieurs mois plus tard, plusieurs mois après que l'idée me soit venue, eh bien en fait, l'histoire qui s'est étoffée depuis, eh bien en fait, a besoin de cette idée très précise qui m'était venue et qui, a priori, n'avait pas grand sens ou pas grande relation avec l'histoire. C'est-à-dire, non seulement cette idée qui me semblait bizarre trouve sa place dans l'histoire, mais c'est parfois même un pivot, enfin, c'est un élément charnière, un élément indispensable. C'est-à-dire, sans cette pièce-là, sans cette micro-scène, parfois, l'histoire serait bancale. Donc, ça ne peut pas venir de mon cerveau, ce n'est pas un calcul de ma part. Oui. Ce sont des éléments que j'ai captés et que j'ai captés dans le désordre. Donc, je ne peux pas prouver qu'Alexis a raison et qu'en effet, je prends ces éléments dans le futur en pompant mes propres livres. Je n'en sais rien, là, la vérité, hein, à la vérité. Mais en tout cas, ça donnerait du sens à ce phénomène très bizarre que j'expérimente depuis le début.
Oui, puis c'est juste ce que tu dis pour l'expérimenter aussi, comme je te disais depuis très longtemps, c'est que cette première information qui arrive, très souvent, elle est assez saugrenue, tu sais, elle est... ou disproportionné, ou pas réaliste, ou en tout cas, t'es pas vraiment en accord avec cette première idée. Quoi.
Tout à fait, parce qu'elle n'est pas créée par notre cerveau, justement. Notre cerveau, il calcule, il est logique, somme toute. Quoi. Donc, nos idées voilà, sont raisonnées. Et là, c'est pas le cas. C'est quand c'est une idée qui vient intuitivement, il n'y a aucune logique derrière, puisque c'est juste qu'on capte l'information. Je peux vous raconter une anecdote qui illustre ça. J'étais en train d'écrire l'un de mes romans qui s'appelle « Je te promets la liberté ». C'est une histoire qui se passe intégralement sur un bateau. Et c'est un bateau qui est amarré sur les quais de la Saône à Lyon. D'accord, il ne bouge pas de Lyon pendant toute l'histoire. Mais toute l'histoire se passe sur ce bateau. Très vite, donc j'étais dans la phase créative qui dure à peu près un an hein, pour moi. Pendant un an, je n'écris pas. Enfin, je prends des notes, mais je ne rédige pas l'histoire. Et donc très vite, au tout début de la phase de créativité, eh bien, j'ai une idée qui me traverse l'esprit, qui est que l'héroïne est originaire de Djibouti. Je vous l'ai dit, je suis dans une posture d'accueil, donc je note, ok, elle est djiboutienne, très bien. Puis je continue, je travaille, et des mois après, au bout d'un moment, je me dis, ouais, mais finalement, quel sens ça ? Moi, j'aime quand même que les choses aient un sens. Hein. Je me dis, pourquoi serait djiboutienne alors toute l'histoire se passe à Lyon ? Enfin, voilà, ça n'a pas beaucoup de sens. Et du coup, j'ai l'idée de faire une recherche étymologique. Donc, je vais sur Internet, je tape Djibouti, je cherche l'origine étymologique du mot Djibouti. Et j'apprends que ça vient de l'arabe ancien et que ça signifie « est-ce que le bateau est arrivé ?» Mais je ne parle pas arabe. Je ne parle pas arabe, donc ça ne peut pas être une création de mon cerveau, une fois de plus. Vous voyez, je ne l'ai pas calculé, je ne l'ai pas pensé. C'est venu à moi, donc c'était juste une intuition.
Je trouve ça vraiment magique. D'ailleurs, il y a beaucoup de... je pense à Léonard de Vinci, à Einstein, à d'autres personnes comme ça, tu sais, qui ont vraiment impacté notre planète. Eux-mêmes étaient vraiment très à l'écoute de leur intuition et de leur partie créative. Et ce que j'ai remarqué aussi, pour avoir lu certains livres qui parlaient d'eux, parfois de manière romancée, parfois purement vraiment très très concentré sur eux, qu'ils étaient dans ce qu'on se disait tu sais, au tout début, bah, à prendre soin d'eux en fait, tout simplement. Au niveau de leur alimentation, c'était des méditants, ils allaient souvent dans la nature. C'était des personnes qui étaient déjà quand même très connectées à eux. Et donc du coup, pour moi, ça image aussi un peu plus la nécessité, tu sais, de vraiment de revenir une fois de plus à son corps, à soi. Parce que je vois passer des questions, donc j'essaie de manière indirecte de répondre à toutes ces questions. Oui, connectez-vous, oui, c'est le bon terme, mais prenez du temps pour vous, vraiment. C'est peut-être le meilleur conseil qu'on peut donner, quoi.
Vraiment, vraiment. Y compris le meilleur conseil de santé.
Oui, c'est ça, ouais, tellement. Tu voulais dire ?
Non.
Okay. Non, je vois que le temps file. J'ai appris en off que tu allais bientôt sortir ton 10e livre. 18 ans maintenant que tu écris, est-ce qu'on peut considérer, du coup, à l'image de ce que disait Alexis, que ça fait 18 ans que tu écris de manière intuitive ?
Écoute, oui, sans doute. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est intuitif non plus. Hein. Il y a aussi une part de réflexion et de calcul hein, dans mes livres. Si tu prends mon précédent ouvrage, Le Réveil, tu vois, c'est un livre qui est très différent des autres, hein, parce que c'est un livre politique, on peut dire, qui revient sur cette période qu'on a vécue du Covid, et sur la façon dont ça a été géré dans notre pays, notamment. Et donc, je traite ça de manière métaphorique, mais à la base, il y a des idées, il y a des réflexions. Donc, tout n'est pas complètement intuitif. Bon, putain, mais il y a aussi un gros travail de recherche, hein, bien sûr, puisque moi, j'aime bien m'appuyer sur des études scientifiques. Donc, il y a un gros boulot pour aller chercher l'information de manière directe et pas intuitive aussi. En fait, la part intuitive, elle va être beaucoup plus sur la créativité, puisque j'ai choisi d'écrire sous forme de roman. Hein. Je n'écris pas des essais ni des guides, j'écris des romans. Et donc, je pense que mon intuition, elle est essentiellement là-dessus. Quoi. Elle est sur toute la dramaturgie.
Et est-ce qu'elle ne serait pas sur l'idée en lui-même du livre que tu vas écrire ? Tu sais, quand cette idée arrive, tu dis « Ah tiens, j'écrirais bien un livre là-dessus. » Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que là, ce ne serait pas intuitif ?
Oui, c'est possible. Si, je ne peux pas l'exclure. C'est difficile de savoir, en fait. En fait, moi, je choisis les thèmes des livres que j'écris. En fait, je dis « je choisis », mais je n'ai même pas le sentiment de les choisir, d'ailleurs. J'ai l'impression que les thèmes s'imposent à moi. C'est-à-dire que j'écris en relation avec ce qui m'anime dans l'instant. C'est-à-dire, par exemple, là je sers, je ne révélerai pas lequel, parce que je suis très secret sur mon écriture, mais il y a un thème qui m'anime depuis quelque temps et qui me tient à cœur. Quoi. Donc, je n'ai pas encore commencé hein, l'écriture du prochain, celui qui paraîtra après, celui qui va sortir au printemps. Mais il y a déjà un thème qui me tient à cœur. Donc maintenant, le gros du travail pour moi, et ce sera un travail quoi, intuitif, hein, c'est de trouver une histoire qui porte ça. Mais je sais que j'ai envie d'écrire sur ce thème. Alors, est-ce que j'ai une intuition qu'il faut, pour une raison que j'ignore d'ailleurs, aborder tel ou tel thème ? Je ne sais pas. En tout cas, je ressens profondément en moi que ce thème m'appelle et que j'ai envie de le visiter, et que j'ai envie d'écrire dessus, et que j'ai déjà un certain nombre d'idées que j'ai envie de partager. Maintenant, il faut que je trouve les personnages de l'histoire.
Là, pour moi, tu illustres justement ce que pourrait être l'intuition. Moi, ça m'arrive souvent, tu sais, que tu ressens, c'est quelque chose de très fort, que cette thématique t'appelle, que moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose, du coup, qui nous appartient pas quand ça se produit, qu'on le ressent, c'est vraiment dans notre corps, et qu'on sent qu'on va mettre de l'énergie pour quelque chose. Souvent, c'est quand même pour quelque chose qui nous dépasse, pour apporter, tu sais, quelque chose à l'humanité ou à d'autres personnes. Là, moi, j'ai vraiment l'impression et l'intuition, du coup, que c'est une information qui ne nous appartient pas, mais qu'on capte, et que donc, oui. Du coup, bah, après, on se met en marche.
Oui, oui c'est pour ça que je me disais tout à l'heure que la connaissance de l'intuition rend humble, hein, parce que finalement, voilà, nous ne sommes qu'un vecteur, un médium pour transmettre l'information, mais je pense qu'on ne crée rien. Quoi.
C'est ça. Exactement. Merci, merci Laurent pour cet échange. Je vois que ça file vite. Bon, pour les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi, j'imagine que c'est compliqué. On le voit à ton répondeur automatique par email. Tu ne peux pas répondre à tout le monde.
Malheureusement, non. Malheureusement, non. Non, le mieux, c'est de m'écrire chez l'éditeur. Mais j'en reçois tellement de lettres que je crois que j'ai à peu près un an et demi de retard dans le traitement des courriers. C'est pour vous dire, c'est ingérable. C'est triste hein, parce que voilà, j'aimerais répondre à tout le monde. Mais c'est compliqué.
Eh ben, écoute, on te souhaite le meilleur hein, pour les prochains livres que tu vas pouvoir écrire. Merci. Plein de bonnes choses.
Merci beaucoup. Plein de bonnes choses à toi et à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez aujourd'hui. Et merci d'ailleurs d'avoir été présent et d'avoir partagé ce moment.
Un grand merci, Laurent. À tout bientôt.
À bientôt, Julien.
Ciao, ciao.
Ciao.
Et voilà, les amis, c'était Laurent Gounelle. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Toujours passionnant, bien évidemment, d'écouter Laurent. Ce qui me vient à l'esprit avec nos échanges, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai déjà fait des lives autour de l'intuition avec Alexandre Antonenko et Caroline Cory, que vous pouvez retrouver assez facilement sur la chaîne YouTube Julien Perron, vous allez voir. Comme vous l'avez compris, je vais interviewer l'Institut IRIS, qui forme à écouter notre intuition, par lequel est passé Laurent. Ce qui me vient à l'esprit, bah, c'est aussi le livre que j'ai écrit. Alors, j'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais qui résume très bien aussi notre échange. C'est quoi le bonheur pour vous, en chemin vers soi, qui, à un moment donné, je vous parlais, vous savez, des fondamentaux, de revenir aux fondamentaux. Et bah, écoutez, ce livre, il nous amène justement aux fondamentaux. Vous le trouvez un peu partout, dans toutes les librairies, à la FNAC, sur Internet, en format numérique. D'ici quelques mois, il sera aussi en format audio, donc sur Audiolib. Un livre qui est sorti le 1er juin. Je suis en train de terminer d'ailleurs le deuxième qui va sortir en octobre 2024, qui est la partie complémentaire à celui-là et qui s'appellera aussi « C'est quoi le bonheur pour vous ?» mais « En quête de sens », qui est la partie beaucoup plus introspective, notre monde intérieur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle après-midi, une bonne journée, surtout prenez soin de vous. Alors, je vais vous remontrer une dernière chose si vous n'étiez pas là au tout début. Je vous rappelle qu'on est en train de... On lance aujourd'hui en fait les inscriptions pour le week-end « C'est quoi le bonheur pour vous ?» du 2 au 4 août au Hameau de l'Étoile à 45 minutes de Montpellier. Un week-end immersif uniquement pour 148 personnes. Et ça sera avec David Tan, Alexandre Antonenko et moi-même. On va vous guider et vous accompagner pendant 2 jours pour justement beaucoup plus vous connecter à votre partie intuitive, à votre partie créative. La photo que je vous montre, c'est le lieu dans lequel on va se retrouver. Vous avez vu, c'est magnifique. On est sur un site de 20 hectares en pleine nature. On reste tous dormir sur place, d'où l'idée du week-end immersif. On va se retrouver dans des salles comme celle-ci que vous pouvez voir à l'écran. Il y a une piscine sur place sur laquelle on va pouvoir justement profiter. Et puis, voilà encore une autre salle dans laquelle on va se retrouver. Ça va être vraiment un moment très puissant pour nous. C'est la suite logique du congrès « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui a eu lieu au mois de novembre à Arcachon. Et donc là, il y avait 600 personnes qui étaient présentes sur place. On a vécu vraiment un moment, là encore, immersif, très puissant. Et donc là, on a envie de le prolonger de manière encore plus intimiste, uniquement pour 148 personnes. Les inscriptions sont ouvertes, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site c'estquoilebonheur.fr que je vous montre à l'écran. Et vous pourrez vous inscrire et participer à cette belle aventure. Ça va être magique. On a hâte de vous rencontrer et de passer ce moment ensemble. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite vidéo autour de l'écosystème « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et puis, je vous dis maintenant à la semaine prochaine pour un prochain live. On parlera toujours soit alimentation, soit amour et couple, soit intuition. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Bye bye. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?» que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes, entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.